Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 35 de Jaffe ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane sur RLP depuis le Périgord. Aujourd'hui, la suite du numéro spécial placement avec la seconde partie de la conversation avec Maître Hamas. Pour rappel, dans la première partie, nous avons évoqué qui était concerné par les placements avec quelques exemples, pourquoi cela fonctionne mal et nous avons commencé à aborder la proposition de loi. Nous avons appris qu'il y avait 160, 170 000 enfants placés en France pour 60 000 détenus et que les services sociaux ne respectaient pas les procédures, se plaçaient dans l'opacité, étaient jugés partis avec la justice qui déléguait toutes leurs décisions en fait au rapport qu'ils recevaient mais qu'ils ne communiquaient pas aux parties tierces. Auparavant, nous allons avoir un témoignage de la semaine des nouvelles d'Arnaud, Arnaud que l'on suit depuis le début de son affaire parce qu'elle est vraiment caractéristique dans son injustice et tous ses dysfonctionnements. Voilà, voilà effectivement les placements. La réalité crue de la France du 21e siècle, c'est juste après ça.
Voici maintenant le témoignage de la semaine.
Bonjour, j'ai été convoqué par la brigade des mineurs en décembre alors que mon fils a été placé qu'au mois de février. Étant donné la lenteur des démarches, un premier jugement a été établi à défaut étant donné que je n'ai pas été attendu par les services de police. De ce fait, au mois de juillet, il y a eu une reconduction du placement de mon enfant.
D'accord, parce qu'ils étaient en retard en fait et ils t'ont porté depuis février.
Oui, voilà, tout à fait.
D'accord.
Ils m'ont dit, on a énormément de dossiers, vous n'êtes pas le seul. C'est pour cette raison-là qu'on vous convoque que maintenant.
D'accord. Tu m'as expliqué aussi que l'ASE changeait les modalités. Ton enfant, tu le voyais pas, qui faisait un peu ce qu'il voulait, mais sans passer par le juge, qu'il puisse dormir chez toi ou pas. C'était vraiment très aléatoire, il n'y avait pas tellement de règles en fait, non?
Oui, tout à fait. Ben, c'est surtout par rapport à l'intitulé du jugement. Le jugement dit que j'avais des droits modulés, c'est-à-dire à l'appréciation des services de l'ASE. Donc, si l'ASE décidait de m'arrêter mes droits de visite et d'hébergement, ils avaient tout à fait le droit de le faire. Pour moi, c'est ni plus ni moins que open bar, en fin de compte.
D'accord. Donc, ils ont complètement délégué leur responsabilité à l'ASE, qui, en fait, fait ce qu'elle veut sans repasser par, voilà. C'est eux qui sont décisionnaires, jugés partis. Et tu me dis aussi que par rapport aux documents que tu reçois, les informations sont parfois manquantes.
Ils sont pas manquantes, ils sont dissimulés volontairement.
Explique-moi.
Alors vis-à-vis des documents que j'ai eus pour l'inscription de mon fils à l'école, beaucoup d'informations ont été cachées volontairement, telles que les coordonnées complètes de la famille d'accueil, les coordonnées de la personne qui est habilitée à être contactée ou à aller chercher mon fils à l'école. Ce sont aussi des coordonnées qui sont cachées volontairement parce qu'il y a bien le nom de famille, un numéro de téléphone qui commence bien par 06 quelque chose. Ces informations-là ont été cachées volontairement par les services de l'ASE.
Alors, on va rappeler que un juge d'affaires familiales a donné la garde au départ à ton ex-conjointe et que tu avais un droit de visite de 2 week-ends par mois à la moitié des vacances scolaires. Qu'ensuite, en février, tu as récupéré ton petit avec la marque des 5 doigts sur la joue gauche et qu'à la suite de ça, tout le monde s'est un petit peu enflammé, qu'il y a eu le confinement, que t'as pas pu le voir, tu savais pas où c'est qu'il était. Il en est aujourd'hui à sa combien de famille d'accueil de foyer, là, 5e ou 6e?
Il est à sa 5e famille d'accueil.
Et il est passé par un foyer.
Et un foyer.
Et puis que, comme t'as pas été entendu par les différents services dans les bons délais et tout, plutôt que de mettre l'enfant chez toi, il est placé et puis toi tu as accès, et ben effectivement, bah pas grand chose quoi.
Voilà, tout à fait. J'ai mon fils que 8 heures par semaine, sans compter que j'en passe 5,5 dans les transports en commun. La juge des enfants m'a reproché de trop m'investir pour mon enfant et m'a dit aussi ouvertement que le dossier l'ont cassé les pieds parce que je suis un père qui s'investit de trop pour son enfant et qui fait trop de démarches.
Super. Bon. Bah écoute, bon courage à nos merci, tiens au courant. Merci.
Merci beaucoup.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
J'en ai fait.
Voici donc maintenant la seconde partie du dialogue avec Maître Hamas sur les placements qui va démarrer directement sur la suite de l'explication de la PPL déposée par lui et son cabinet il y a quelques temps.
On a aussi un problème pour avoir les budgets. Est-ce que vous avez considéré dans votre PPL de demander un éclaircissement, une visibilité?
Oui, mais attendez, moi, je suis pas journaliste.
Non,
je
pardon, m'en fous excusez-moi. Du budget. Bien sûr.
Moi, je suis pas journaliste, donc je m'en fous du budget. Moi, je défends des gens. Je veux pouvoir avoir accès à leurs documents. Donc, dans la PPL, on demande à ce que le rapport, on l'ait un mois avant. Et un autre truc qui est pour moi fondamental, c'est qu'il faut arrêter le huis clos. À un moment, on a dit, il faut protéger le huis clos. Je vous explique pourquoi. Cette loi qui prévoit la défense de l'enfant en danger, c'était prévu pour les enfants qui étaient violés, pour les enfants, les parents impécunieux, pour les situations extrêmes.
Oui, donc on passait par-dessus les droits de ses parents parce qu'ils étaient indignes.
Non, on a convenu que c'était pour les enfants. On convient que pour les enfants, c'est toujours à huis clos.
D'accord.
C'est toujours à huis clos. Et plus ou moins, c'est bien. Mais c'est pas si bien que ça. Parce que le huis clos ne protège pas l'enfant, il protège les gens des services sociaux et les magistrats qui sont là. Vous savez, à certaines audiences, maintenant que je vais beaucoup à ces audiences, à certaines audiences, j'entends des trucs que je n'ai jamais entendus, ni en correctionnel, ni aux assises. Je suis un vieux briscard. Moi, les assises, j'y vais une fois par an avec un plaisir ou deux, que je ne dénie à personne. Je vais aux assises, je prends une semaine et je me régale. Il y a une loyauté, chacun respecte l'institution dans laquelle nous sommes. On va se frapper judiciairement, oralement pendant une semaine, mais les uns et les autres, on va respecter notre institution. Jamais un juge ne va interpeller de manière directe un bonhomme en étant désagréable, en étant vulgaire ou en passant les limites. Mais moi, toutes les semaines de ma vie, depuis que je fais ce métier-là, je vois des gens qui dérapent. Je vois des gens qui dérapent. Des gens des services sociaux qui dérapent tout le temps. Le maxi, je l'ai déjà dit plusieurs fois en antenne, étant à jeun, où une maman qui n'en peut plus du placement et qui dit au bout de 2 ans, dit « mais je vous en supplie, rendez-moi au moins mon enfant le week-end » et se met à pleurer comme un enfant. Et à côté, la nana des services sociaux qui la regarde, qui riait. Ça, en audience publique, vous savez, là, on parle beaucoup de filmer ou non les flics dans la rue. Mais si on filmait les audiences auxquelles j'ai participé, il y a beaucoup de juges qui seraient suspendus, il y a beaucoup de gens des services sociaux qui seraient très en difficulté.
Ouais, c'est une demande d'association aussi, ça. On voudrait que l'audience soit filmée, qu'elle soit stockée.
Contourner le truc.
Non pas qu'elle soit publique, hein, parce qu'on ne souhaite pas que tout soit public.
Comment contourner le truc ça oui. Peut pas être public, mais il faut qu'il y ait un représentant du défenseur des droits.
Ou alors on filme, on stocke et on peut y accéder ensuite par huissier ou par requête ou
non. Oui, mais filmer, on voit pas l'attitude du juge. Vous savez, j'ai vu dans le milieu de la France un juge avec qui vraiment on est à la châtaigne. Chaque audience, c'est très compliqué. Chaque audience, c'est très compliqué.
Mais défenseur des droits, ça veut dire mettre une personne en plus. Il faut la payer. Il y a beaucoup de tribunaux en France, beaucoup d'audiences. Ça coûte
oui,
cher.
Mais ça mérite, monsieur.
D'accord.
Ça mérite.
Oui, mais quand je regarde l'état des tribunaux où ils n'arrivent pas à avoir des feuilles parfois
ouais,
pour la photocopieuse.
Que l'on filme, ça soit bien. Mais il faut voir l'attitude. Il faut que la caméra ne filme pas que les gens qui sont derrière. Il faut filmer. Et, excusez-moi, j'ai honte de le dire. J'ai honte, mais j'ai également vu. Alors moi, je dérape parfois. Hein, et le bâtonnier me tire les oreilles quand je suis allé parfois trop loin.
C'est un peu sanguin. Ouais.
Mais de notre côté, jamais plus loin que jamais si loin.
Oui, non,
par contre, moi, j'ai vu des attitudes de magistrats qui sont inqualifiables.
Absolument. Nous avons des cas où on demande nos opinions politiques. J'ai des gens qui viennent me voir
en disant,
j'ai des gens qui sont venus me voir en disant qu'on leur demandait leur opinion politique. Enfin, disons,
il
y a parfois certaines choses.
Ça fait partie de deux trucs que moi j'ai jamais vu, dont les réseaux sont friands. Les réseaux politiques et également la pédophilie. Les réseaux pédophiles. Alors, c'est un truc qui est même agaçant.
Non, là, on déborde un petit peu. Par contre, si vous voulez, moi, c'est Majaf à moi qui m'a demandé pour qui j'ai voté dans ma première audience, ma première ONC en 2016. Donc ça
et
existait.
Ben, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas une caméra.
Et d'ailleurs, absolument, absolument. Et c'est pour ça que, c'est cette chose-là qui a fait, je parle très très peu de moi généralement à l'antenne, mais dans ce cas-là, effectivement, c'est cette audience-là qui a fait, je me suis investi dans le milieu associatif et nous militons pour que ces audiences soient filmé parce qu'un greffe malgré toute ta bonne volonté et ses 10 doigts, ne peut pas tout écrire. Et donc, il est hors de question de mettre ces choses à public.
Ça serait bien mais, le film, mais il faut que le film inclue. Il faut que le film inclue le magistrat.
Il faut que la caméra soit postée comme si c'était une personne supplémentaire avec la disposition dans la salle.
Ça serait plutôt bien. Le seul moyen de restituer, parce que tout le monde se tiendrait bien, et là il y en a qui se tiennent pas bien. Il y a des tribunaux en France où moi je peux dire que je déborde, hein, parce qu'on me le dit souvent, on me tire les oreilles, mais il n'y a pas que moi à déborder. Et quand je déborde, objectivement, c'est parce que je suis passionné, que je crois encore dans ce métier que j'exerce, et je retrouve dans ce combat qu'on mène pour les enfants la violence et le bonheur de la défense que je connais aux assises. Et aux assises, on défend des gens en espérant qu'on va leur amener une vie meilleure, c'est du moins d'arriver à trouver une solution plus juste souvent. Et ce combat disproportionné qu'il y a aux assises, où il y a un seul type avec son avocat contre 40, 50 personnes qui ont travaillé sur le dossier, c'est exactement le même combat que l'on vit au tribunal pour enfants, parce que c'est un combat d'une violence sans pareil. Hein. Au niveau judiciaire, pour moi, il n'y a que deux combats, les assises et le juge pour enfants. Et le juge pour enfants est beaucoup plus dur, parce que s'y rajoute le mépris. Le mépris des parents. Un mépris le plus profond des parents.
Pour les gosses de la tasse. Romantique.
Ok. Abstra plus. Maître Hamas, une question que j'ai très souvent en permanence. Comment faut-il agir avant que la situation ne dégénère pour un placement ? Par exemple, là j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit j'ai un problème, je tente de scolariser mes enfants à la maison, je le fais bien, mais en ce moment il y a un gouvernement qui ne souhaite plus ou qui lutte contre ceci. J'ai eu 3 assistantes sociales qui sont rentrées chez moi, elles ont regardé mes peintures sur les murs, comment je m'occupais de ma fille, pourquoi elle voit plus sa maman qui est à l'étranger alors que moi je suis seul avec elle, je le sens pas bien, ils ont dit que je vivais en couple avec mon enfant, elles ont été très méprisantes et autres. Je suis très inquiet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Eh bien, scolariser ses enfants. C'est tout simple. Alors, excusez-moi, je vais te dire un truc que les gens n'ont pas envie d'entendre. Il y a des feux qui, lorsqu'ils se déclenchent, attirent l'attention des services sociaux.
Oui.
L'école est obligatoire en France, point. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de scolariser à la maison. Ça veut dire que les enfants qui sont hospitalisés parce qu'ils sont gravement malades, qui ont la leucémie, ils doivent suivre le même enseignement que ceux qui sont à l'école. C'est ça que ça veut dire.
D'accord.
Ça ne veut pas dire le contraire. On a le droit de ne pas mettre ses enfants à l'école. La règle, c'est les enfants qui sont à l'école. Point barre, punta basta.
D'accord. De manière générale, alors, en extension...
Attendez, il y a une deuxième raison qui est importante. C'est pour les vaccins. Ceux qui disent, moi je décide de ne pas vacciner. C'est d'un deuxième repère, et souvent les deux vont ensemble. L'indéscolarisation de l'enfant pour faire l'école à la maison, et souvent ça s'accompagne du refus du vaccin. Si vous faites ça, que vous allumez ces deux feux, vous allez avoir les services sociaux à la maison, et vous allez commencer à avoir des maux de tête. Là, il faut immédiatement prendre un avocat. Tout seul, vous n'en sortirez pas.
Avant la procédure, avant que ça commence.
Oh, bien sûr. Il faut que vous montriez que vous êtes déjà organisé et prêt au combat. Mais attention, ils sont plus forts que vous. Ils sont plus forts que vous, et vraiment, c'est un signal fort. Si vous déscolarisez vos enfants, votre enfant, que vous êtes seul, ils vont penser que vous êtes dépassé, que vous faites l'école à la maison, que vous êtes dépassé, donc. Et là, le risque de placement est très important.
D'accord. Donc, par extension, on va dire qu'il vaut mieux ne pas allumer les feux et essayer de passer en dessous du radar.
Hein. Ah, il faut passer en dessous du radar. Surtout quand on est fragile. Surtout quand on est fragile et qu'on vit seul, parce que là c'est un deuxième truc, on va vous reprocher de vivre seul. Vous vivez seul, vous escorisez votre enfant avec à la maison, donc vous êtes un père exclusif ou une mère exclusive, vous faites un couple avec votre enfant.
Après j'ai eu d'autres cas, hein. J'ai un papa qui
était séparé
avec la maman, et puis j'ai l'enfant qui pleurait beaucoup à l'école parce que c'était un passage de bras, le passage de bras se faisait à l'école, la maîtresse a fait une information préoccupante, et les services sociaux ont débarqué, et puis ça s'est compliqué assez rapidement alors que le père...
Ça se complique, là, vous savez, quand on est seul, Il faut pas montrer de fragilité. La scolarisation à la maison, c'est pas prévu par la loi, c'est pas fait pour ça. Et pourquoi on scolarise les enfants? C'est que les gens oublient. On les scolarise pas pour leur enseigner bien, mais pour qu'ils vivent ensemble. C'est la raison pour laquelle on scolarise les enfants. Du coup, en faisant ça, c'est en attirant l'œil sur vous, après, c'est compliqué. C'est compliqué.
Donc, vraiment. Dites-vous, avant l'audience, dès qu'on commence à être confronté à des rapports hostiles ou...
Dès qu'on a un ou deux feux d'allumer,
on montre qu'on est organisé avant que ça dégénère.
Il faut se mettre. Il y a des moments où il faut se mettre en mode furtif. Quand vous les sentez venir trop proche, il faut baisser la voilure. Réellement, parce que vous savez, ils ont tout pouvoir. Et quand on vous a placé les enfants, nous on sait par définition qu'on part sur un an, voire deux. C'est un an ou deux sans vos enfants et c'est vos enfants qui grandissent ailleurs. Du coup, quand on est dans l'œil du cyclone, quand on les voit arriver. Il faut baisser la voilure et pas l'attendre. Il faut pas dire, moi, les vaccins, c'est non, moi, c'est école à la maison, punta basta. Ça, c'est pas possible.
Moi, je comprends. Très bien.
C'est pas possible parce que vous vous mettez grandement en danger.
Pour les gosses de la DAS, romantique.
Ok. Maître Hamaz, vous me disiez en antenne que vous aviez fait du familial également, de la gestion de divorce, de conflits parentaux. Vous indiquiez qu'une grande partie des dossiers que vous avez provenaient de parents qui s'entendaient difficilement. Pensez-vous que l'affaiblissement des droits parentaux en France, avec une énorme augmentation de l'intervention des services sociaux et de la justice, est une des raisons de l'augmentation du nombre d'enfants placés?
Ah non, je pense pas du tout ça, moi.
Vous pensez pas ça, d'accord.
Ah non, pas du tout. Moi, je pense que le JAF... Et de mieux en mieux en France.
D'accord.
Que il a ouvert plein de champs qui n'étaient pas ouverts avant. D'abord, il a permis la résidence alternée, ce qui est une embellie pour les parents. Vous savez, que vous ayez l'enfant.
Loi de 2002, c'est Ségolène Royal.
Oui, que vous ayez les enfants du vendredi au vendredi ou un samedi sur deux du vendredi soir au lundi matin, plus un mardi sur deux du mardi soir au jeudi matin, c'est plus simple la résidence alternée. Ça. Il y a moins de points de contact entre les parents, du coup, moins de disputes. Ça fonctionne vachement bien. Le JAF a ouvert de manière correcte les droits. Le JAF, ça fonctionne extrêmement bien en France. Alors les gens, on est toujours parfois perdants, mais il y a moins de perdants dans la mesure où on essaie de solliciter la résidence alternée. Donc le JAF s'est posé. Le JAF est fait par des spécialistes.
Vous êtes pour la résidence alternée.
À l'usage, vous savez, en 30 ans, j'ai dû faire 1000 divorces.
Ce que je demande, bien sûr.
J'ai dû faire 1000 divorces, et ceux où il y a eu la résidence alternée, à l'évidence, le conflit s'est apaisé.
Oui.
Alors, les gens vont dire, oui, non, ils veulent ce qu'ils veulent, mais à l'évidence, sur la plupart des dossiers, le conflit s'apaise. Le conflit s'apaise dès qu'il y a la résidence alternée, parce que chacun y trouve son compte. Alors que tous les autres moyens, soit amènent à voir moins son enfant, soit moins amènent des points de contact.
Et les points de contact. Donc voilà, mardi, la résidence alternée, la conciliation, diminue les conflits, et diminue le risque de placement.
C'est largement. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre ça et ça. Hein. Moi, je pense tout simplement que ce qui dysfonctionne de manière importante en France, c'est les services sociaux. C'est les services sociaux qui sont omnipotents, qui donne le conseil de placer de manière violente, sans recul. Par exemple, vous avez des parents qui ont un signalement de l'école en disant, mais il y a un petit qui dort à l'école, il dort, tiens, il dort. Voilà, il fait que dormir. Il s'allonge, il dort. On convoque les parents. Là, il y a une nana qui a jamais fait de psycho, qui a aucun diplôme en psychologie. Zéro, walou, nada.
Et parfois, elle a même pas fait l'IRC.
Qui a jamais été psychiatre de sa vie. Et celle-là va s'asseoir. Et avec un air épanoui, comme si elle vous annonçait la recette de la tarte au citron, elle va expliquer comment il faut placer votre enfant parce que il est en souffrance. Il est en souffrance et c'est pour ça qu'il exprime sa souffrance en dormant. Voilà. Ce raisonnement-là.
Donc il faut le mettre sur les matelas, les endroits où on fabrique des SDF, c'est là qu'il faut le mettre.
Et surtout les viols. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est qu'un enfant placé, comment on n'a pas de pognon? Il y a les foyers. Souvent, on mélange les enfants, le petit Eric ou la petite Sophie ou Khadija qui a 8 ans et qu'on place parce que ses parents se disputent, quoi que ce soit. Mais il y a également des délinquants qui sont placés pour essayer de trouver un cadre familial. Et là, ils se font défoncer. Ils prennent des coups, il y a des attouchements sexuels, il y a des viols. Et vous savez, il y a tellement de viols, il y a tellement d'attouchements sexuels que c'est totalement banalisé. C'est-à-dire
l'empressement à les mettre des enfants qui parfois ne vont pas si mal que ça dans des environnements qui, de manière évidente, seront pires pour eux.
Ah ben, mais parce que pour moi, je dis souvent qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas.
Ils gagnent de l'argent.
Ils se rendent pas compte. C'est-à-dire, ils sont dans un autre univers. Perso, c'est ce que je pense. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Les gens des services sociaux, on dit qu'ils sont formés. Bon, ils sont formés comme ma mère à peu près au saut à l'élastique ou au parapente. Hein. Alors oui, mais non. Moi, je refuse, je dénie à quelqu'un capable qui soit de poser un diagnostic psychologique. Je vous le dénie à vous comme je me le dénie à moi. Mais eux se l'autorisent. Par exemple, il y a un truc, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire quand il y a un parent qui surmédicalise un enfant et que en fait, l'enfant n'a rien. Ce syndrome-là, il y a des magistrats, des gens des services sociaux qui le posent. Parce qu'une maman m'énerve à son enfant, elle lui met un corset, d'accord, sur les reins, parce que il a une scoliose ou une syphose ou
généralement il y a un docteur qui décide ça.
Mais ce que ces gens ne veulent pas accepter, c'est que celui qui pose le diagnostic, c'est le médecin qui prescrit le corset.
Ben oui, voilà, il y a un docteur à la base de ça.
Et alors vous savez, moi j'ai déposé des plaintes là maintenant contre les médecins, puisqu'on est obligé de déposer plainte contre le médecin en disant toi tu lui as fait mettre un corset alors qu'il n'avait pas besoin. Ah. Et tout ça à cause de Madame Martin, de l'ASE, de Roche, qui a décidé, elle, sans aucune compétence, que la mère faisait un syndrome de Munchausen par procuration. C'est comme si vous et moi, on posait un diagnostic sur le cancer du foie.
Est-ce que vous avez trouvé que ces gens étaient neutres et respecter l'égalité homme-femme en fait dans leurs interventions, ou est-ce qu'il y a des
gens qui sont mauvais, ils sont aussi mauvais que les femmes.
D'accord.
Par contre,
être un père isolé, c'est pas pire qu'être une mère isolée en fait.
Non, pareil. Mais malheureusement, c'est souvent des mères isolées.
Bah parce que c'est-à-dire, de fait, c'est beaucoup plus souvent la mère isolée qui a l'enfant.
C'est souvent ça. Il fait pas bon en France être mère isolée.
D'accord. Okay. Moi, j'ai aussi beaucoup de parents, de papas qui viennent, hein, puis qui se plaignent d'attitude. Ils se demandent ce qu'on leur reproche de leur nature. Vous vous dites, en fait, c'est pareil pour tout le monde.
Pareil pour tout le monde. Branlé pour tout le monde.
Pour les gosses de la DAS. DAS. Romantique.
Ok. Abstrapus. Bon, maître Hamas, dites-nous, quel est votre regard sur l'avenir? Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer? Votre PPL, déjà, est défendu par quel groupe? Des indépendants?
Ah, ils sont plusieurs. Alors, c'est déposé par des gens qui sont en PR.
Oui.
Mais c'est soutenu par, bizarrement, par les Insoumis.
D'accord.
Notamment, il y a des gens du groupe Fakir qui ont beaucoup travaillé avec moi du journal au début.
C'est bien ça.
Moi, qui nous ont, parce que moi, c'est des sujets qui font l'unanimité. Il n'y a pas des gens qui sont contre.
C'est politique. C'est bien d'avoir des gens d'un peu partout.
C'est totalement. Du coup, quand je suis allé à l'Assemblée nationale pour présenter mon projet, il y avait des gens de tous les groupes et qui étaient ébahis, effarés, qui étaient bouche bée de ce que je révélais. Tiens, moi, je suis venu avec mes dossiers où j'ai biffé les noms pour que les gens voient ce qu'il y avait écrit, qu'ils voient ce qu'il y avait écrit, que c'était inacceptable. Du coup, mon regard, c'est que ça va avancer. Ils commencent déjà à avoir peur. L'important, c'est que la peur change de côté.
D'accord.
Parce qu'à un moment,
il va y avoir des... Vous, sur le démarrage des débats, le fait qu'on en parle un petit peu, même si l'actualité occulte quasiment tout le reste, beaucoup de gens maintenant parlent de déplacement.
Maintenant, ça avance.
Ça avance.
La peur change de côté, parce que vous relayez les médias. Oui. On a eu une première émission sur TF1, on a eu une sur M6, on a eu tous les médias radio, et maintenant, on avance. Moi je suis que pas porte-parole toujours. Moi j'ai pas envie d'être député, j'ai pas envie d'être rien du tout, hein. Je veux rester dans ce que j'aime faire. C'est me retrouver dans les tribunaux avec ce combat que j'aime mener. Donc moi la politique je m'en fous, mais alors force de, hein. Ce qui m'intéresse c'est le combat. Là je pense qu'on a gagné notre combat.
Maître Hamas, merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Merci.
Merci. Bonne journée à vous.
Pour les gosses de la DAS. Abstrapus.
Il était 8h environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs, les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un lit poussiéreux, les murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. J'irais les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on vit, c'est pire que la mort.
C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Jésus. Je vois pas mon futur loin de chez moi. Entre quatre
par des personnes nommées éducateurs, formées pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. J'ai su par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et cette rumeur était vraie, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée, où à l'intérieur il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite j'ai deviné que les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous. La suite tu la connais.
C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Jésus. Douloureuse rupture, je vois pas mon futur loin de chez moi. Entre quatre
l'assistante sociale nous conduit au tribunal. Un avocat à mes côtés pour la décision finale. Ma mère dans la salle d'attente, j'étais seul dans la pièce. Il profitait de son absence pour me donner de la tristesse. C'est sincère, ce que j'entendais était totalement faux. Comme une éponge absorbe l'eau, lui il absorbe les mythos. Sa phrase décisive était un avis défavorable. Il dit votre mère pour vous élever, elle n'en est pas capable. L'avocat à mes côtés n'a pris aucunement ma défense. Il m'a seulement dit petit, vas-y prends l'histoire dans le bon sens. Après ça j'ai été victime de délinquance. Enfance plus souffrance et quel bordel dans la France. L'enfant en danger, on s'en fout, on ne l'est pas. Et celui qui a la chance d'aller bien, on l'emmerdera. Je veux dire aux enfants concernés par ce vécu, seule la force et l'espoir fait que je les ai vaincus.
C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Jésus. Douloureuse rupture, je vois pas mon futur loin de chez moi. Entre quatre les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Jésus. Douloureuse rupture, je vois pas mon futur loin de chez moi. Entre quatre murs enfermés.
Voilà, c'était le Jaftamer numéro 35 avec Maître Hamas sur les placements, un sujet difficile, émouvant et toujours autant inacceptable, où l'on se rend compte que tout part à volo, comme il le dit lui-même. Que fait-on de nos enfants encore aujourd'hui en 2021? Comment allons-nous essayer durant ces prochains temps, ces prochaines années, de mieux gérer les séparations qui malheureusement font aujourd'hui partie de notre société? Cela a été l'occasion aussi pour moi de me remémorer cette audience de décembre 2016 avec cette petite juge blonde là, derrière son bureau, qui me regardait de manière hautaine en me demandant si par hasard je ne votais pas Front National ou Rassemblement National, car selon elle, c'était contraire aux valeurs éducatives nécessaires pour avoir la garde de l'enfant. Enfin, c'était absolument hallucinant. C'est aussi la réalité, c'est ça la réalité des tribunaux, cela en fait partie, j'espère que c'était un cas particulier, je le souhaite grandement, mais c'est peut-être grâce à cette dame que je suis aujourd'hui en train de vous parler à tous et de tenter de changer le monde et la société pour la rendre meilleure. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, les deux prochains numéros seront des best-of car nous avons été très rempli en 2020 avec Monsieur Jean-Pierre Winter, Raphaël Despart, Thierry Berger, Gérard Nérand, plusieurs sommités avec leur page Wikipédia ou leur importance dans le débat actuel. Nous verrons cela le vendredi 25 ainsi que le vendredi 1er avec les best-of 2020. Portez-vous bien, au revoir.
Thank you. Jaf-ta-mer.